Le retour du FM 97 sur la radio des hits.
Je reçois aujourd'hui Vladislav Markov, qui est coordonnateur de projet pour Manicouagan Interculturel, mais particulièrement le volet d'accueil des Ukrainiens ici à Baie-Comeau, mais peut-être un petit peu même un plus vaste territoire. On en parlera tout à l'heure parce qu'il y a d'autres familles ukrainiennes aussi qui sont à l'extérieur de Baie-Comeau en Côte-Nord. Monsieur Markov, bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Ça fait plaisir. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, vous appréciez d'être appelé Vlad. Je vais vous appeler Vlad pendant l'entrevue. Vous avez un parcours quand même qui ressemble beaucoup aux gens que vous accueillez ici. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, s'il vous plaît?
C'est ça qui m'aide beaucoup dans mon travail, c'est parce que je comprends très bien ce qu'ils ont vécu, ces gens-là qui sont arrivés au Canada, parce que moi, je fais partie de ces gens-là. En 2022, pendant le début de l'invasion, au début de la guerre, j'étais en France, j'étais en baccalauréat, dans le but de terminer mes études, et pendant le début de l'invasion, ça m'a stressé beaucoup, ça m'a impacté beaucoup. Les premiers jours, je voulais vraiment retourner en Ukraine, comme beaucoup des gens à l'époque, et d'aider à mon pays. Mais après ça, j'ai discuté avec ma famille, avec ma mère. Puis, je suis seulement un étudiant, je ne suis pas militaire, je ne peux pas contribuer de façon importante en étant en Ukraine, mais je peux contribuer en étant en la France. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler chez France Terre d'Asile dans l'accueil des Ukrainiens. Après avoir terminé mes études, fallait que je bouge, je ne pourrais pas rester en France. J'ai trouvé cet programme que j'ai trouvé et je trouve toujours exceptionnel, Quaet, ou comme on dit en français, AVU-CU.
OK.
Puis j'ai quitté la France en 2023, comme beaucoup des Ukrainiens, puis je suis arrivé à Montréal. Alors, mon parcours, ça ressemble à beaucoup de gens qui sont arrivés et qui arrivent toujours. C'est traverser 7000 km de l'Ukraine. Bah, dans mon cas, c'était de la France, mais bref, c'est traverser, parcourir l'océan, d'aller jusque Canada, jusque Montréal. Ça reste quand même loin, puis
il y a une grosse partie du pays présentement qui sont déjà évacués. Ça, on l'entend beaucoup parler que les gens ont quitté malheureusement leur résidence, leur ville, leur village, leur lieu d'appartenance, soit qu'ils sont dans des villes très limitrophes, là, tout près de l'Ukraine autour, où ils sont accueillis, etc. Donc, vous, les gens à qui vous parlez dans le cadre de votre travail présentement, est-ce qu'il y en a qui sont encore dans ces pays-là, c'est-à-dire autour de l'Ukraine, et ils cherchent à venir ici ou sont déjà en Amérique ici?
Il y a une clientèle très vaste et différente. On a des gens qui sont toujours en Europe, qui cherchent des solutions pour y rendre à Canada parce que les billets, parfois, ça reste un défi pour certaines familles, surtout si ces familles, par exemple, où il y a 3-4 enfants, père et la mère. C'est, vous imaginez à quel point ça peut être cher, les billets, par exemple. Avant, il existait un programme des billets pas trop chers pour les Ukrainiens. Là, ça n'existe plus. Alors, ça reste un défi. Il y a des gens qui sont toujours en Europe, qui ont toujours l'intention de s'en aller au Canada. Il y a des gens qui sont arrivés à Montréal, à Toronto, à Vancouver. Puis, c'est surtout parce que les gens, les Ukrainiens, de manière générale, connaissent pas très bien le Canada. On va dans les villes qu'on connaît. Et c'est pas les endroits idéaux pour commencer, pas forcément, surtout Vancouver, surtout Toronto, c'est les villes qui sont extrêmement chères. Alors c'est aussi notre clientèle, c'est les gens qui sont arrivés à Toronto, leur plan de match c'était quitter le pays, quitter la guerre, se rendre à Canada, mais il n'y avait pas de plan pour après. Et c'est ça, on travaille ensemble pour avoir cette plan d'intégration, d'avoir son résidence permanente aussi, ce qui fait partie de notre tâche.
Oui, puis il y a des gros défis aussi au niveau que ce soit la francisation aussi, je veux dire. Puis c'est quoi les étapes, par exemple, pour quelqu'un, parce que Bon, je sais qu'il y a un examen médical, il y a beaucoup de choses, là, puis, tu sais, c'est très complexe, peut-être qu'on ne pourra pas tout dire, mais c'est quoi les principales étapes pour quelqu'un qui veut venir ici à Baie-Comeau puis qui cherche à s'établir?
Vous avez bien mentionné l'examen médical parce que ça reste quand même problème important et majeur parce que vous le savez que sur la côte nord, il y a vraiment, il y a pas de clinique désignée. Alors, si quelqu'un veut s'installer sur la côte nord, faut qu'il commence par Québec ou Montréal pour passer son examen médical. Alors ça, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qu'on essaye de travailler, mais c'est un dossier assez complexe. Mm-hmm. Mais pour les gens, moi, je dirais que francisation, l'hébergement et le travail, c'est trois axes principaux. Parce que francisation, c'est ce qui permet de s'intégrer, c'est ce qui permet de communiquer. Parce que moi aussi, je suis un Ukrainien et... quand j'étais plus petit, à mon arrivée en France, je ne parlais pas français. Et je sais que c'est très frustrant pour les gens d'arriver dans le pays et d'être comme surémué.
Ouais.
Tu as des idées dans ta tête, tu veux raconter, tu veux partager, mais tu ne peux pas parce que tu ne connais pas la langue. Alors c'est quelque chose qui est très frustrant, mais en même temps, c'est quelque chose qui est très important de maîtriser la langue. Alors francisation, c'est numéro un. Deuxième chose, c'est bien sûr travail, parce que travailler, ça veut dire pouvoir se nourrir, pouvoir donner nourriture à sa famille aussi.
Se valoriser aussi, s'épanouir un peu, là.
C'est ça. Et de plus, c'est ça qui vous donne résidence permanente par après, parce qu'il faut travailler pour avoir résidence permanente. Les Ukrainiens, il faut mentionner ça, sont pas les réfugiés. Alors, c'est les gens, c'est les travailleurs temporaires. C'est les gens qui doivent travailler pour avoir leur résidence permanente. Leur résidence permanente n'est pas garantie à leur arrivée au Canada.
Pouvez-vous nous expliquer brièvement pourquoi, vous êtes, même s'il y a la guerre chez vous, pourquoi vous n'êtes pas considérés comme des réfugiés légalement?
Malheureusement, je ne peux pas vous dire ça. C'est une décision qui était prise par IRCC, par gouvernement fédéral. Je ne peux pas vous dire plus que ça.
Okay.
Puis, juste pour finir ce que je viens de dire, deuxième, c'est le travail, et troisième, c'est le logement, puisque vous connaissez que le logement, c'est quelque chose qui est complexe, pas sûrement sur la côte nord, mais au Canada de manière générale, c'est quelque chose qui devient de plus en plus cher, de moins en moins accessible.
Oui. Puis vous, votre travail, c'est tous ces axes-là que vous devez travailler en même temps?
Alors, c'est plus ou moins ça, mais il y a encore beaucoup plus.
Ouais.
Alors, on travaille beaucoup pour francisation. C'est pas nous qui offrons le francisation, mais on a beaucoup de partenaires qui font ça. On a Baie-Côte-Nord qui propose des cours de francisation. On a Centre éducatif qui propose des cours de francisation aussi. Ça est devenu plus ou moins accessible à Baie-Comeau. Et honnêtement, on est même avantageux par rapport à Montréal, parce qu'à Montréal, il y a beaucoup de gens qui arrivent en même moment, et puis le temps d'attente, parfois, c'est 4 mois, 6 mois pour commencer la francisation. Je trouve ça quand même énorme. Ici, à Baie-Comeau, ça peut être moins long. Pas toujours, mais assez souvent, c'est moins long.
Oui, puis maintenant, est-ce que vous êtes un peu comme...